Expression.
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 Pluriel. Pluriel.
Expression plurielle.
Expression plurielle.
Et tout de suite, sur le 88.6, vous allez entendre une interview de Émilie Josse, qui est agricultrice maraîchère dans le jardin de Lily à Saint-Cernin, et que vous pouvez retrouver dans le magasin de producteurs La Musette à Aubenas. Interview orchestrée par Marina, Mila est à la technique et Maë est au montage.
Les interviews du Club Info du Collège Jastre.
Bonjour Émilie, comment allez-vous ?
Bonjour, je vais très bien, merci. Merci de m'accueillir.
Eh bien, tout le plaisir est pour moi. Vous êtes là aujourd'hui pour, quelque sorte, nous vous expliquer en quoi consiste votre travail d'agriculturiste maraîchère, c'est ça ?
Oui.
Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter, vous et peut-être aussi votre métier ?
Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Émilie Josse, je suis agricultrice sur Saint-Cernin-Vauguet et je vends sur la commune d'Aubenas, magasin de producteurs La Musette. Et donc je suis maraîchère, diversifiée, ça veut dire que je cultive une trentaine de légumes sur l'année, toute l'année, aussi bien en hiver qu'en été.
D'accord. Et quelles sont vos pratiques ou même vos convictions ? Je mets des parenthèses, en tant que maraîchère.
La ligne de conduite, on va dire, pour mon entreprise, c'est les trois grands principes de la permaculture. C'est prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager les surplus. Ça, c'est les bases d'éthique que je souhaite mettre en place.
Par rapport à votre métier, est-ce que être maraîchère, c'était une évidence pour vous ?
Non, pas forcément, parce que je dirais même que la première année, je me sentais un peu comme une imposteur. Des fois, je regardais le champ et je disais « Ah, mais ça fait professionnel quand même !» Et non, c'était pas évident. Je pense que je me voyais beaucoup comme une jardinière au début et je pense que petit à petit, le maraîchage, je me suis fait à cette idée, petit à petit.
Et est-ce que vous pratiquez le labourage des sols et à votre avis, quelles sont les vertus ou les défauts ?
Alors, je ne fais pas de labour, moi, sur ma parcelle. Je ne suis pas forcément pour le labour, mais j'ai conscience que dans certains cas, dans certains types de sols, c'est un peu obligatoire pour l'aération du sol. Parce que le labour, bon, il a plein de défauts, mais il a quand même une qualité, c'est l'aération des sols. Le recours systématique au labour, pour moi, c'est parce qu'on ne réfléchit pas de la bonne manière, on va dire. C'est par simplicité, par facilité, on va faire du labour obligatoire. Mais je pense que c'est parce qu'on ne voit pas le problème du bon côté. Mais parfois, c'est indispensable pour certains types de sols.
Je reviens sur ce que vous avez dit à ma première question. Vous avez dit quelque chose par rapport à rassembler. Pour vous, en fait, pourquoi ça serait important de se réunir en tant qu'agriculteur, maraîcher, etc. ?
Oui, donc moi je suis dans un magasin de producteurs, donc c'est un collectif. On est très vite isolé en tant qu'agricultrice ou agriculteur. C'est important d'avoir des liens avec les autres pour parler de nos problématiques, pour parler aussi de nos réussites et pour l'entraide aussi. Parce qu'on a toujours de l'entraide, parce qu'on a toujours besoin de coups de main qui soient matériels, qui soient physiques, on va dire. Par exemple pour le montage d'une serre, mais ça peut être aussi un soutien moral dans les moments où ça va pas, dans les moments où c'est difficile.
Sachant que l'agriculture c'est un milieu assez masculin, je vais dire, est-ce que l'égalité est présente ou pas vraiment ? Est-ce que c'est plus dur d'être une femme dans ce milieu ?
Ça peut l'être, évidemment, ça dépend un peu des secteurs. Dans le maraîchage, un peu moins. Maintenant, c'est aussi à nous, les femmes, d'assumer notre posture et de ne pas se mettre en arrière, mais vraiment d'assumer la posture que je suis une femme, je suis chef d'entreprise et je suis également agricultrice et je suis à ma place. Et ne pas se dire, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui involontairement se mettent aussi dans une posture de je suis un peu en décalage et c'est normal que je sois en décalage. Mais non, j'ai totalement ma place, je vais travailler différemment peut-être de certains hommes, mais j'ai ma place et c'est à moi de la mettre cette place-là et ne pas douter que ce n'est pas ma place, alors que ma place elle est là. Et j'ai pas de doute à avoir sur ça. Les hommes en règle générale, ils se questionnent moins sur leur légitimité. Mais nous, les femmes, on a une tendance à se questionner beaucoup sur est-ce que je suis légitime ou pas dans ce métier-là. Mais on n'a pas de questions à se poser sur ça. On a envie de faire ça, on le fait, et puis point. C'est tout.
Et aussi, retour à nouveau sur le sujet de l'agriculture, la pratique. Est-ce que vous avez un avis sur les méga-bassines ?
Ah, c'est une bonne question. Les méga-bassines, oui, bah, je suis contre, comme beaucoup d'agriculteurs d'ailleurs. Je pense que c'est les industriels qui mettent ça en place. On est en train de privatiser l'eau, et d'une mauvaise manière, puisque les méga-bassines, on pompe dans les nappes phréatiques pour remettre cette eau à la surface, soi-disant en hiver, mais en sachant que dans beaucoup d'endroits en France, les nappes phréatiques ne se rechargent pas entièrement pendant l'hiver. Donc ça pose trop de questions. Je pense que c'est une question qui devrait être posée de manière beaucoup plus large. Je pense que, oui, on ne doit pas donner cette question à des industriels. Enfin, c'est une question qui est beaucoup trop importante. Et je pense que c'est aussi aux Français de se positionner sur ça et... L'ensemble des agriculteurs n'a pas été consulté pour la mise en place des méga-bassines. Et ça, c'est problématique.
Merci beaucoup. Et ça va être le temps de passer aux questions du public.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai une question à propos d'un travail. Est-ce que si vous n'aviez pas été agricultrice, est-ce que vous auriez été un autre travail ? Quel travail auriez-vous préféré ?
Alors moi, j'ai fait plein de métiers dans ma vie avant d'être maraîchère et plein de métiers différents. Mais le lien avec la nature est pour moi indispensable. Donc si demain, je devais faire un autre métier, ce serait un métier en lien avec la nature pour le maintien de la biodiversité ou l'augmentation de la biodiversité.
J'ai une seconde question.
Oui.
Combien faites-vous de profit par mois ou par an ? Genre, combien de fruits et légumes vous vendez par mois ou combien vous produisez ?
En termes de volume, je ne quantifie pas le volume. Donc, du coup, j'ai du mal à répondre à cette question. Je ne sais pas quel volume je produis. Mais je dois nourrir entre 50 et 100 familles, à peu près.
Ok, merci.
De rien.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, moi, j'aurais une question, c'est par rapport au cliché un peu du maraîcher agricultrice, est-ce que vraiment vous vivez dans une ferme avec des animaux ?
Non, je ne vis pas sur ma ferme. J'ai un petit appartement en ville.
Parce que souvent, quand on s'imagine maraîcher agricultrice, on s'imagine une ferme avec plein d'animaux, tout ça, donc voilà.
Non, malheureusement, je ne peux pas habiter sur le terrain où je cultive. Donc j'habite pas très loin. Et non, en termes d'animaux, j'ai juste deux chiens. Et j'aimerais bien mettre des poules, mais c'est pas... voilà, il faut que je prenne le temps de le faire.
Non, merci.
De rien.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous connaissez Frédéric Imbert, qui est aussi au magasin de producteurs La Musette ?
Oui.
D'accord. C'est mon père.
Bonjour.
Bonjour.
J'avais une question. Quel genre de fruits et légumes produisez-vous ? Enfin, légumes, il me semble plutôt.
Oui, donc j'ai une trentaine de légumes sur l'année. Donc l'été, ça va être ce qu'on appelle les légumes ratatouille. Donc aubergines, les oignons, les tomates, les poivrons. Après, j'ai aussi les choux l'hiver, les courges. Des épinards, les salades, je fais du mesclun asiatique, de la mâche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des chouraves, du fenouil, des carottes. Enfin, pas pour 2024, mais 2023, il y avait des carottes. Un peu de melon et de pastèque. Des pommes de terre, évidemment. Et j'en oublie.
Et une autre petite question, est-ce que vous avez vous aussi affaire à des plantes qui, invasives ou des insectes qui ravagent vos cultures?
Alors oui, j'ai des insectes qui sont qui attaquent les cultures, bien sûr, mais en étant en maraîchage diversifié, j'ai pas de grosses problématiques. C'est-à-dire que je vais pas avoir une nuée d'insectes qui va venir ravager toutes mes cultures, puisque en moyenne, j'ai toujours 10, 15 légumes en même temps qui poussent. Donc ça va être une culture qui va être plus impactée que d'autres. Et je remarque que plus les saisons avancent, plus j'ai un écosystème qui est en train de se mettre en place. Mais par exemple, les attaques de pucerons, j'en ai tout autant. Mais comme j'ai des insectes auxiliaires, c'est les insectes qui sont amis, c'est les insectes qui vont venir attaquer ces pucerons-là. Donc du coup, ça s'équilibre. C'est-à-dire que oui, il y a des pucerons qui arrivent, mais j'ai des insectes qui vont venir se nourrir de ces pucerons. Du coup, il y a un équilibre qui commence à se mettre en place. Mais c'est long, il faut être un peu patient.
Merci. Vers quel supermarché envoyez-vous vos légumes ?
Alors, je vends dans aucun supermarché. Je vends principalement au magasin, c'est un petit magasin de producteurs. Donc, il n'y a pas de salariés dans ce magasin. Il n'y a que des agriculteurs qui tiennent la caisse. Donc, on se relaie. Voilà, on est ouvert du mardi au samedi. Et l'été, je suis au marché de Chirol. Je fais un petit marché.
Ah.
Un marché d'été.
Et donc, par rapport à vers Romégier, par exemple.
Romégier,
un magasin de légumes, fruits et tout. Différents.
Ah oui, bah, c'est plus petit et voilà, donc au magasin on a de tout, hein. On a aussi bien des fruits et des légumes que de la viande, du fromage, de l'huile. Il y a beaucoup de produits qu'on retrouve dans notre magasin, mais c'est que les nôtres. C'est-à-dire que dans les magasins classiques, c'est les personnes qui sont en gestion de ce magasin vont acheter à quelqu'un d'autre. Tandis que nous, on n'achète rien ailleurs. On vend uniquement ce qu'on produit, nous. Voilà. C'est ça, la différence.
Merci.
De rien.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que, en tant qu'agricultrice, vous avez déjà pratiqué ou pratiquez-vous la biodynamie ?
Alors non, j'ai jamais pratiqué la biodynamie. C'est quelque chose qui m'intéresse. Mais j'ai pas fait de formation en ce sens, parce que c'est quand même très technique. Faudrait que je me forme et que je sois accompagnée en ce sens. Mais j'ai pas encore passé le cap. Mais peut-être un jour.
D'accord, merci.
Ouais.
Moi, du coup, j'aurais une question à poser. C'est quoi, du coup, la biodynamie ?
Ah, merci. Ah, c'est une très bonne question. À moi de la résumer. La biodynamie, c'est on va utiliser le pouvoir des plantes, déjà, via des préparations. Je suis pas très technique là-dessus et je connais pas grand-chose sur ça, mais grosso modo, c'est grâce aux plantes, on va pouvoir faire des préparations pour venir soit booster la plante, soit la protéger d'éventuelles attaques de champignons, de bactéries, ce genre de choses. Et tout ça, ça va être couplé en même temps à l'orientation des planètes. C'est-à-dire que on sait très bien que la Lune a un impact, par exemple, sur les marées. Et ben, les planètes ont aussi un impact sur l'ensemble des systèmes, qu'ils soient végétaux ou animaux. Et donc, du coup, c'est jouer avec ça pour prendre les créneaux les plus propices pour le développement de la plante, pour qu'elle soit dans les meilleures conditions. En gros, c'est ça.
D'accord, merci Dico.
Parce que vous avez, Marina, t'as posé une question sur les méga-bassines, mais du coup, je me demandais, c'est quoi les méga-bassines ? Peut-être vous pouvez répondre toutes les deux.
Alors, de ce que j'ai pu lire, les méga-bassines, c'est pour... On a un problème d'eau, d'irrigation agricole, en été. Donc, dans plein de régions, on manque d'eau. Donc, plutôt que de réfléchir à un planning général de culture pour mettre des cultures qui sont très gourmandes en eau dans des secteurs qui ont beaucoup d'eau, plutôt que de restructurer complètement la filière et de se dire « Ok, le maïs doux, on va le faire que dans des zones où il y a énormément d'eau parce que c'est extrêmement consommateur », plutôt que d'aller dans ce biais-là, ils se sont plutôt dit « Bon, ben, on va prendre l'eau là où elle est », dans les nappes phréatiques, en hiver, on va pomper en hiver et on va les mettre dans des énormes bassines, des immenses bassines. Donc c'est un trou avec une bâche et avec une clôture tout autour pour éviter que les animaux tombent dedans et se noient. Et donc cette eau s'évapore en été, forcément. Donc on a une énorme perte d'eau. Ça vient diminuer forcément les nappes phréatiques et ce qui pose problème à beaucoup d'agriculteurs qui sont autour. Parce que les mégabassines, l'eau qui est vendue, parce que cette eau-là, du coup, elle est privatisée, du coup, elle est vendue à des agriculteurs. Et cette eau-là, elle n'est pas vendue à tous les agriculteurs qui sont autour. Il n'y en a que certains qui vont avoir suffisamment d'argent pour pouvoir se le payer. Enfin, souvent, quand on est petit agriculteur, on ne gagne pas beaucoup. C'est compliqué de gagner correctement sa vie. Et de payer une consommation d'eau à ces tarifs-là, on ne peut pas. Et du coup, c'est vers quel type d'agriculture on va, quoi. L'industrie ou la paysannerie. Nous de choisir, quoi.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, je pense surtout au niveau sauvegarde de la biodiversité, notamment les nappes phréatiques. Si l'eau des nappes phréatiques sont pompées, il peut y avoir des risques d'effondrement si ces nappes-là sont asséchées, mais aussi, une baisse de biodiversité sur les sols qui sont au-dessus de ces nappes-là, et notamment une baisse de fertilité des sols.
Non, mais complètement. Complètement, mais ça, ils n'y pensent pas. Les mégabassines, ça reflète bien le monde dans lequel on est, c'est-à-dire de la surconsommation, c'est-à-dire qu'on va consommer les ressources jusqu'à l'épuisement. Et les mégabassines, si c'est maintenu et si ça continue, ils iront jusqu'à l'épuisement des nappes phréatiques. Donc, bien évidemment qu'on ira vers ça. Et en plus, le pire, c'est que les mégabassines sont très largement subventionnées. Les gens, ils payent avec leurs impôts ces mégabassines-là, qui ne vont pas dans le bon sens.
Personne n'a été consulté avant.
Et personne n'a été consulté.
Ouais.
Et surtout pas les agriculteurs qui habitent et qui cultivent autour. C'est ça le pire.
Ouais. C'est un peu la même problématique que l'épandage de produits sur certains terrains et qui se déplacent sur d'autres terrains qui sont censés être bio. De la même manière, c'est pas averti et c'est pas contrôlé non plus. Merci.
C'est ça.
Est-ce que pour vous, les hivers sont rudes ou pas? Pour les végétaux.
Non, on a des hivers plutôt doux, en règle générale. Juste à mon échelle, je vois quand même l'évolution du climat. Et nous, on va devoir s'adapter. On en discute beaucoup entre maraîchers sur comment on va faire pour s'adapter au réchauffement climatique et s'adapter aux températures qui sont extrêmes l'été. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place pour aller vers ça? Donc, on va devoir investir dans nos exploitations respectifs pour pouvoir pallier à ça, parce qu'il va bien falloir qu'on continue à manger malgré tout. Parce qu'il y a beaucoup de fleurs qui ne sortent pas ou qui coulent ou qui tombent au-delà de 35 degrés. Et 35 degrés, ça devient un peu la norme, quoi. Donc c'est comment faire pour créer un microclimat pour permettre la floraison et qu'on... Parce que qui dit fleurs dit fruits, et qui dit fruits dit bon truc. On aime les tomates. On a envie d'en avoir.
Fruits, légumes et tout ce qu'il y a autour.
Bonjour.
Bonjour.
Ce que vous venez de me dire, ça me fait penser à votre toute première réponse. Quand vous vous êtes présentée, vous avez parlé de permaculture et des trois principes qui guidaient votre travail. Mais est-ce que vous pouvez nous redéfinir ce que c'est que la permaculture?
Moi, je ne suis pas une experte en permaculture. Moi, j'ai juste quelques notions. Moi, je dirais que ces trois grands principes-là, ça pose les bases. Souvent, quand on pense permaculture, on pense jardin. Alors que la permaculture, c'est pas que le jardin, c'est tout un écosystème, tout un style de vie qui est autour de qu'est-ce que je fais pour prendre soin de la terre, pour prendre soin des hommes et pour partager des surplus. En gros, c'est ça. Et donc, ça part de l'habitat. Et de l'habitat, c'est mon alimentation. Et de l'alimentation, après, on va partir sur les différentes ressources qui me permettent de vivre et comment je les utilise. Et donc, c'est un petit peu tout ça. Et en termes de jardin, c'est comment utiliser les ressources locales pour pouvoir produire. Mais à chaque fois, ça revient pareil. Pour le logement, c'est la même chose. Et pour tout ce qui va être construction, l'eau, la gestion de l'eau, enfin, toutes ces thématiques-là sur qu'est-ce que je fais pour avoir le moins d'impact possible sur mon environnement. Ça va être ça.
C'est un mode de vie.
C'est un mode de vie.
Merci.
Merci.
Ce serait quoi vos idées pour améliorer tout ça ?
Ah, pour améliorer tout ça ? Déjà, ça part de vous. C'est votre génération qui va peut-être pouvoir changer les choses. Parce que nous, c'est fini, quoi. Mais oui, déjà, ça part de vous. Et je pense que ce qui peut changer les choses, c'est pas le vote dans une urne, mais c'est la carte bancaire. C'est quand je consomme, c'est de se poser la question à chaque fois, quel système j'alimente ? Est-ce que c'est un système dans lequel je vais vouloir vivre demain ou pas ? Est-ce que quand je fais cet achat-là, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et au lieu de consommer sans réfléchir, plutôt de se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Et chaque action, chaque achat, c'est ce qui crée le monde de demain. Il n'y a que comme ça. Avec la mondialisation, on voit le problème qui est vraiment global. Alors que les actions, on peut les mener ici. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est de voir juste au Bena et aux alentours, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux aider ma communauté. Et je pense que c'est là l'action principale à faire, plutôt que de voir un truc trop large.
Ça fait réfléchir.
Merci.
Et c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup à vous d'être venus et d'avoir répondu à toutes ces questions.
Merci.
Expression plurielle. Une action soutenue par la préfecture politique de la ville, le département de l'Ardèche, la commune d'Aubenas et la caisse d'allocation familiale.